Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 5h à Paris, 4h en temps universel. Marion Cazeneuve avec vous pour une nouvelle demi-heure d'infos. Bonjour Marion.
Bonjour Edouard.
Le journal d'abord. La situation en RDC à la une au cœur du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC.
Les chefs d'État de ces organisations demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent dans l'est du pays, en proie au combat entre l'armée congolaise et le M23, tandis que la situation humanitaire continue de se dégrader sur place. Israël envoie une délégation au Qatar pour discuter de la trêve avec le Hamas, une trêve plus que fragile après le cinquième échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Un dimanche d'élections présidentielles et législatives en Équateur où l'insécurité, le narcotrafic se retrouvent au cœur de la campagne. Législative aussi au Kosovo, petit pays d'Europe qui fait face aux pressions de son voisin serbe. Et puis le sommet sur l'intelligence artificielle s'ouvre demain à Paris. Une révolution technologique qui continue d'interroger, voire d'inquiéter, on le verra. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. C'est ce que demandent les chefs d'État de l'EAC et de la SADC réunis en sommet hier en Tanzanie à Dar es Salaam. Les présidents des organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe demandent aussi un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. Alors que les combats se poursuivent dans le sud Kivu, l'est de la RDC est en proie à une importante crise humanitaire. Plus de 3000 morts à Goma dans le nord Kivu et autant de blessés que les ONG ont du mal à prendre en charge, comme le détaille Luc Lamprière, directeur du Forum des ONG internationales.
La situation, elle est terrible. Les chiffres qui sont maintenant connus depuis quelques jours sur le nombre de morts, on parle de plus de 3000 morts, on parle de près de 3000 personnes qui sont blessées dans des hôpitaux, donne une idée de l'ampleur de la crise que connaissaient les humanitaires et à laquelle on redoutait de devoir faire face. Et donc c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup des stocks ont été détruits ou pillés lors de la bataille de Goma. Énormément de médicaments manquent. Le niveau de traumatisme de la population, des personnes qui sont dans les hôpitaux, ce n'est pas que des blessés, ce ne sont pas que des personnes qui ont été impactées par les combats. C'est aussi un nombre très très élevé de victimes de violences sexuelles, y compris des enfants, qui ont besoin d'assistance et de soutien médical et d'une présence constante à leur côté. Et les besoins en aide humanitaire sont considérables et on a aujourd'hui des hôpitaux débordés et des humanitaires qui sont sur place, qui sont présents, qui sont prêts à agir, mais qui sont très inquiets sur la façon dont ils vont pouvoir continuer à travailler dans les prochains jours.
Luc Lamprière, directeur du Forum des ONG internationales avec Paulina Zidi. Et pour le Forum, toujours l'urgence, c'est l'établissement d'un pont aérien et donc la réouverture de l'aéroport de Goma. Au Mali, au moins 25 morts dans l'attaque d'un convoi civil escorté par l'armée et les paramilitaires du groupe Wagner. Ça s'est passé dans la région de Gao, dans le nord, embuscade attribuée à des djihadistes. Si l'armée déplore 25 morts des civils, certaines sources locales font état de 32 morts civils et militaires. La trêve entre Israël et le Hamas entre dans sa quatrième semaine, une trêve toujours très fragile. Elle sera discutée dès aujourd'hui au Qatar, où Israël envoie une délégation très fragilisée par les conditions dans lesquelles sont organisées les libérations des otages israéliens. La mise en scène de leur libération hier, leur état physique très éprouvé, a choqué en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi en promettant d'éliminer le Hamas et a ordonné la réduction des quantités d'aide humanitaire livrées à Gaza. Du côté palestinien, hier, ce sont 183 prisonniers qui ont été libérés par Israël. Des familles entières les attendaient à Ramallah entre joie et inquiétude. Reportage d'Abla Junaidi.
Au pied du centre culturel de Ramallah, les autorités israéliennes ont cherché à dissuader les familles de toute effusion de joie et de tout propos dans les médias. En vain, les pleurs des femmes angoissées se mélangent au rire et au youyou. À l'arrivée du premier bus, Oum Mohamed cherche du regard son frère, en prison depuis 16 ans.
La dernière fois que je l'ai vu, il était en mauvais état. Il était passé de 80 à 52 kilos. Il avait été hospitalisé pour une balle dans le bassin. On verra dans quel état il est. L'avocat m'a dit que ça allait, mais je veux voir de mes propres yeux.
Juché sur des épaules, un homme de 40 ans qui en a passé la moitié dans la prison militaire israélienne de Ofer harangue la foule.
Les prisonniers tiennent bon, n'ayez pas peur pour eux parce qu'ils sont comme des rocs, malgré la faim, malgré la douleur, malgré le fait qu'ils sont comme enterrés vivants. Ne vous en faites pas, tous les jeunes gardent le moral. Nous nous sacrifions pour notre libération, pour la victoire. Notre tâche n'est pas terminée.
Gaza est sur nos épaules, poursuit l'ancien détenu. Aux prisonniers au front haut, que d'autres vous succèdent, chante une femme dans la foule. Abla Junaidi, Ramallah, RFI.
Et les 5 otages thaïlandais libérés par le Hamas il y a 10 jours lors du 4e échange viennent quant à eux d'être rapatriés à Bangkok. Ils sont arrivés tout à l'heure. Un dernier otage thaïlandais est retenu à Gaza. Il est présumé vivant. Au Liban, le nouveau Premier ministre vient de former un gouvernement. Gouvernement de réforme et de salut, selon ses mots. Nawaf Salam s'est engagé à mettre l'accent sur la reconstruction, le retour à la stabilité et à des réformes financières. La nomination de ce gouvernement marque la fin de plus de 2 ans de gouvernance intérimaire. Il sera soumis à un vote de confiance au Parlement dans les 30 jours. RFI, 4h06, en temps universel. Les Caraïbes secouées par un séisme de magnitude 7,6. Ce tremblement de terre, dont l'épicentre se trouve dans la mer des Caraïbes, a provoqué une alerte au tsunami pour Cuba, le Honduras, les îles Caïmans, Porto Rico et les îles Vierges. L'alerte a été levée il y a quelques heures. Ce séisme semble ne pas avoir fait de dégâts. En Équateur, 2 scrutins aujourd'hui avec la présidentielle et les législatives. Pour la présidentielle, le président libéral sortant, Daniel Noboa, devrait se qualifier pour le second tour face à l'opposante de gauche, Luisa González. Au cœur de ce scrutin, la lutte contre le narcotrafic, le trafic de drogue, a transformé ce pays, autrefois considéré comme sûr. Désormais, l'insécurité grandit, malgré la coûteuse guerre du président Noboa contre les gangs, avec des méthodes radicales très critiquées. Pour Alexis Medina, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'Équateur, le président équatorien n'a pas tenu ses promesses.
Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un échec, dans le sens où il avait promis justement une réduction du taux d'homicide, une réduction des niveaux de violence. Et sa principale méthode consistait à militariser la lutte contre le trafic de drogue sur le modèle de ce qui s'est déjà produit en Colombie ou au Mexique. Sauf que cette militarisation n'a pas donné les effets escomptés. D'un côté, elle a produit des cas de violation des droits de l'homme avec la disparition de 4 enfants afrodescendants qui ont été tués par les militaires. Et d'un autre côté, ça n'a pas réduit les niveaux de violence puisque effectivement, le mois de janvier a été le mois de janvier le plus violent dans l'histoire du pays. Avec finalement, je crois que on a fermé le mois avec 750 homicides en tout dans le pays sur le mois de janvier. Tout ce programme de lutte contre le trafic de drogue au cours du mandat qui est sur le point de se finir s'appelait le plan Phoenix. Ça consistait à expliquer que l'Équateur allait renaître de ses cendres et qu'il allait connaître à nouveau une période de relative sécurité, une réduction des niveaux de violence, mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
Alexis Medina, spécialiste de l'Équateur, propos recueillis par Arim Lipa. Autre élection ce dimanche, cette fois sur le continent européen. Le Kosovo élit ses 120 députés. La victoire du Premier ministre sortant, Albin Kurti, semble assurée face à une opposition divisée et dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe et qui est aussi en mauvais termes avec les Occidentaux qui l'accusent d'attiser les tensions avec la Serbie voisine. Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo et face à la ligne serbe, Albin Kurti reste populaire pour sa fermeté, Carlota Morteo.
Surnommé le Che Guevara du Kosovo pour son passé de militant indépendantiste et d'opposant au dictateur serbe Slobodan Milošević, le premier ministre Albin Kurti est apprécié pour son intégrité. Fervent nationaliste, ce social-démocrate bien à gauche s'est attaché ces dernières années à fermer les institutions parallèles financées par la Serbie au Kosovo, banques, bureaux de poste et autres administrations opérant dans les zones majoritairement peuplées par la minorité serbe. Objectif, réinstaller la souveraineté du gouvernement sur tout le territoire kosovar, une manière aussi de rétablir l'état de droit et de lutter contre la corruption. De quoi raviver les tensions avec Belgrade et susciter des critiques de la part de l'Union européenne qui lui a imposé des sanctions et des États-Unis, l'allié historique du Kosovo. Cette semaine, un représentant de l'administration Trump a même déclaré, je cite, « Les entreprises américaines se développent en Albanie, en Serbie, mais pas au Kosovo à cause de Kurti », un soutien à peine voilé à l'opposition de droite qui attaque le Premier ministre sur son bilan économique. Le Kosovo reste l'un des pays les plus pauvres d'Europe.
Et sur les enjeux de ces législatives au Kosovo, vous retrouvez un long article sur notre site RFI.fr. On revient notamment sur la politique de fermeté du Premier ministre face à la Serbie. Paris, capitale mondiale de l'intelligence artificielle, pour quelques jours, elle accueille dès demain un sommet mondial sur l'IA. À cette occasion, un fonds canadien vient d'annoncer l'investissement de 20 milliards d'euros en France d'ici 2030, Brookfields. Le fonds en question veut notamment développer des data centers. L'IA, une technologie qui interroge encore beaucoup avec ses avantages dans plein de secteurs comme la médecine, l'industrie, mais aussi ses dangers supposés. Et les avis sont encore partagés sur cette révolution technologique, comme l'a constaté Oriane Gendreau, qui a tendu son micro à quelques Parisiens.
À 50 ans, Henri est plutôt optimiste. Pour lui, l'intelligence artificielle a beaucoup d'atouts.
Il y a le bon sens et il y a le mauvais. Et quand on va l'appliquer à l'aspect médical, à l'aspect bien commun, c'est quelque chose qui est super.
Brigitte est à la retraite depuis 5 ans et elle non plus n'est pas inquiète.
Je pense que c'est comme beaucoup de technologies nouvelles. On risque d'avoir peur au début et puis se rendre compte que ça dégage de tâches consommatrices de temps et probablement difficiles.
Pour Kylian, impossible d'échapper à l'intelligence artificielle. Il s'en sert tous les jours au travail, notamment pour résumer des textes compliqués à des enfants. S'adapter à cette nouvelle technologie, c'est donc pour lui une fatalité.
C'est vrai que moi au début, j'étais pas très avenant par rapport à ça d'un point de vue écologique. Mais après, en fait, je pense que c'est important d'apprendre à travailler avec ces outils.
Cette omniprésence de l'IA fait peur. En tout cas, elle fait peur à Émilie et Richard. Pour les deux riverains, elle permet un peu trop facilement de manipuler les foules et les images.
De la manipulation de masse par les réponses, notamment sur les recherches internet par exemple.
J'ai peur qu'on me prenne mon identité. Vous voyez quelqu'un qui parle, mais en réalité c'est pas lui qui parle, c'est détourné par des gens mal intentionnés.
Rassurer les sceptiques et limiter les dérives de l'intelligence artificielle, ce sont donc deux des objectifs du sommet international de l'IA de cette semaine.
Oriane Gendreau, l'intelligence artificielle. On en reparle dans la chronique défense dans quelques minutes. On verra comment elle bouleverse les stratégies sur les champs de bataille. Il est tout juste 5h12 à Paris, 4h12 en temps universel. On reste ensemble pour une vingtaine de minutes avec nos chroniques et nos reportages.
Marion Kazanov.
On sera dans une réserve naturelle de la forêt amazonienne menacée par les contrebandiers. Les populations autochtones qui peuplent cette réserve s'organisent elles-mêmes pour patrouiller et lutter contre les activités illégales. L'intelligence artificielle, on en parlait, aura son premier sommet mondial demain à Paris. Dans la chronique défense, on verra comment elle bouleverse les stratégies sur les champs de bataille. On découvrira aussi l'application d'un ancien chauffeur routier qui a décidé de faciliter la vie des automobilistes avec cette appli qui leur permet de bien entretenir leur voiture et éviter les mauvaises surprises. On fera ensuite un tour dans les eaux de la Seine, pas si sales, pas si polluées que ça, puisque trois espèces de moules ont réapparu dans les eaux qui bordent Paris, et c'est plutôt bon signe. Et puis après, ce sera le retour de l'actualité africaine sur RFI. Le reportage international nous emmène ce matin au cœur de la forêt amazonienne. Le poumon vert de la planète n'est pas menacé que par le réchauffement climatique. Il l'est aussi par toutes les activités illégales qui creusent son sol, affaiblissent ses ressources avec le trafic de bois, les mineurs d'or, autant d'activités qui empiètent sur les territoires des populations autochtones. Alors pour se protéger, ces communautés de la réserve naturelle du Pilon Lajas, côté bolivien, organisent chaque mois une patrouille. Patrouille qu'a pu suivre Niels Sabin.
Il est un peu plus de midi quand la patrouille quitte finalement le port de Rurrenabaque en Amazonie bolivienne. Au programme, un jour et demi à sillonner la rivière Beni, l'une des frontières naturelles du Pilon Lajas, à la recherche de potentiels chercheurs d'or illégaux. Madeline Guzman fait partie de l'organisation autochtone du territoire. Elle nous explique la procédure quand ils rencontrent des mineurs.
Si c'est la première fois, on le rappelle à l'ordre et on le fait sortir de la zone. La deuxième fois, on le sanctionne en saisissant tout son matériel. Au bout de la troisième fois, on porte plainte et on avertit les autorités.
Après 4 heures à remonter le Beni sans embûche, nous arrivons à l'un des campements des gardes forestiers du Pilon Lajas. Une petite réunion de coordination est organisée. La patrouille reprendra le lendemain matin avec au moins un garde forestier présent.
Ils protègent la zone et nous aussi, donc nous avons tout intérêt à collaborer. Et comme ils connaissent bien le secteur, ils peuvent aussi nous guider au besoin.
Pendant la soirée, Lander Beyuma, l'un des gardes forestiers, détaille le peu de moyens dont il dispose pour empêcher l'arrivée de mineurs ou de contrebandiers. Un manque de ressources qui va parfois jusqu'à l'absence de carburant pour patrouiller aux frontières de la réserve.
Avant, nous étions 20 gardes forestiers. Maintenant, nous ne sommes plus que 11. Avec ces 9 effectifs en moins, c'est très dur de protéger les 400 000 hectares de la réserve naturelle du Pilon Lajas.
Le lendemain, nous atteignons la limite du pylône La Raffe. Aucune activité minière n'est détectée pendant le trajet. Pourtant, pour Hermine Oviès, vice-président du conseil régional Timan Mosseten, la situation est préoccupante.
Nous nous trouvons devant le ruisseau Naranjani, qui est la limite du territoire. À un mètre environ de l'autre côté, nous avons constaté la présence de mineurs qui cherchent de l'or.
Bien que ces activités minières ne soient pas dans le territoire du pylône La Raffe, le mercure utilisé est rejeté dans le Béni, empoisonnant à petit feu l'eau, les poissons et les populations locales. Pour Madeleine Guzman, l'un des principaux responsables de cette situation n'est autre que l'État.
Ce que souhaite l'État, c'est développer l'industrie minière, quitte à mettre en péril nos territoires. C'est ce qu'il a toujours souhaité. Et si on ne se mobilise pas, c'est sûr qu'il ne va pas nous écouter. Donc on lutte. On représente la voix de nos communautés et on ne baisse pas les bras.
Une détermination plus que nécessaire pour faire face aux incessantes tentatives d'intrusion des chercheurs d'or dans le pylône La Raffe et surtout supporter le silence de l'État bolivien. Nils Sabin, sur les rives du Béni, RFI.
Le reportage international à retrouver sur notre site ou bien notre application Pure Radio. Paris est en ce moment la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Elle accueille dès demain un sommet mondial sur le sujet. On en parlait déjà dans le journal. Sommet où seront présents des dirigeants étrangers, des patrons de grandes entreprises. Dans la chronique Ligne de défense, on s'intéresse à ce que l'IA pourra changer sur les champs de bataille. Ces algorithmes sont déjà largement utilisés, ce qui pose notamment le défi, Franck Alexandre, de la souveraineté.
Radar nourri au deep learning et drone d'attaque construit autour d'un logiciel dopé à l'IA, la guerre d'Ukraine sert de laboratoire. L'agence ministérielle de l'IA de défense, l'AMIAD, créée l'an dernier, a justement pour mission de permettre à la France de maîtriser souverainement l'intelligence artificielle de défense pour ne pas être en retard d'une guerre, dit son directeur Bertrand Rondepierre.
La guerre en Ukraine, il y a énormément de choses qui sont en train de faire en matière d'autonomie, d'accomplissement de mission, à la fois sur de la reconnaissance et aussi sur des munitions téléopérées, donc des drones qui font ensuite des frappes. C'est un constat que la guerre évolue. On est vraiment sur une mutation, par exemple, massification de drones pas chers versus des gros objets très chers. C'est pas que l'un soit supérieur à l'autre, mais c'est une vraie question qui se pose. Et donc ça, c'est une mutation qu'il faut prendre en compte et qu'il faut suivre.
Helsing, jeune pousse française, a ainsi développé l'HX2, un nouveau type de drone d'attaque capable de détruire avec précision des objectifs d'artillerie, des blindés, tout en résistant aux brouillages adverses. L'entreprise, nous dit son fondateur Antoine de Braquilange, a répondu à l'appel du général ukrainien Valery Zaloujny pour obtenir de ces entreprises venues du civil une percée technologique.
L'entreprise a annoncé un certain nombre de partenariats de contrats pour les Ukrainiens, pour offrir finalement aux Ukrainiens cette masse à bas coût, c'est-à-dire un grand nombre d'objets produits rapidement, dont le prix unitaire finalement est assez faible, mais qui est avec de l'IA et donc un peu plus d'intelligence.
L'IA remodèle l'art de la guerre et s'impose comme l'allié indispensable face au déluge d'informations dont disposent les armées pour plus de vélocité, mais pas que, indique Marc de Fritsch, directeur de MASA, leader mondial des logiciels pour l'entraînement des états-majors.
Accélérer la décision, mais c'est aussi proposer d'autres solutions et c'est de tester les solutions. Le fait, par exemple, d'avoir une simulation connectée au système d'information et de commandement et de pouvoir tester la solution que l'on envisage dans une simulation et de la réinjecter dans les systèmes de commandement, là, c'est un énorme avantage.
Les systèmes existent, restent à les fabriquer et en masse, c'est le cas notamment pour les drones équipés d'IA. Antoine de Braquilange.
Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Comment est-ce qu'on passe à l'échelle industrielle? Quel modèle de production et de supply chain logistique pour être capable de monter en cadence de production pour que le jour J, on puisse produire à l'échelle des objets et en toute autonomie stratégique?
Les entreprises de l'IA de défense plaident donc pour la création d'un Airbus du secteur et ce sera l'un des enjeux du sommet de Paris.
La chronique Ligne de défense, Franck Alexandre. L'intelligence artificielle Mamadou Diarra s'en est servi pour créer ses propres algorithmes et son application Lafia. Ce logiciel aide à l'entretien de véhicules, pour se rappeler notamment du moment des contrôles techniques, des entretiens à réaliser de temps en temps. L'application de ce Français originaire du Mali a reçu le prix Talent des Cités, issu de la diaspora dans la catégorie création pour la région Pays de la Loire, où il réside. Pour la chronique Vivre ailleurs, Mamadou Diarra répond aux questions de Corinne Mandjou.
Alors Lafia, c'est une application qui permet de digitaliser la gestion et l'entretien des véhicules d'occasion.
On a remarqué qu'il y avait des problématiques chez les particuliers sur la gestion de leur véhicule, comme l'oubli des entretiens sur leur véhicule, l'oubli du contrôle technique, l'oubli des dates butoirs aussi des entretiens, comme on a souvent ce fameux voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Et avec toutes ces problématiques-là, on a souhaité simplifier le suivi des véhicules. Alors tout simplement, sur l'application, on enregistre son véhicule et en fonction des kilomètres qu'on ajoute, ça nous indique les entretiens qu'on est censé réaliser sur son véhicule.
Et pourquoi vous avez créé cette application? Qu'est-ce qui vous a motivé fondamentalement?
Alors dans mon ancien travail, on avait des véhicules qui tombaient fréquemment en panne parce qu'on avait cette fameuse mauvaise gestion des véhicules. Et moi-même aussi avec mon véhicule personnel, comme je travaillais beaucoup, eh ben, j'avais jamais le temps de bien entretenir mon véhicule. Donc je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire.
Et quand vous dites votre ancien travail?
J'étais chauffeur poids lourd, plus précisément chauffeur toupie. Chauffeur toupie, donc les grands camions qui tournent pour livrer le béton sur les chantiers.
Comment ça fonctionne, cette application? Comment les clients procèdent pour utiliser ce logiciel?
Alors, ils téléchargent l'application sur les stores, iOS et Android, gratuitement. Donc, pour enregistrer son véhicule, c'est très simple, en fonction de la catégorie de son véhicule, de la marque, de son modèle et de sa motorisation. On crée son compte. Et sur l'application, on a plusieurs solutions, comme ajouter ses factures, avoir les informations sur les entretiens, ajouter la date de son contrôle technique. Donc on a voulu mettre tout en un pour vraiment simplifier la gestion. Et en fonction des kilomètres qu'on ajoute régulièrement, ça nous indique les entretiens qu'on est censé réaliser. C'était vraiment pour avoir une visibilité très simplifiée sur ce qu'on va faire sur son véhicule. Et ne pas arriver au garage et ne pas savoir ce qu'on a à faire, et surtout ne pas comprendre le devis qu'on met devant nous.
Est-ce que vous êtes vous-même informaticien de formation? Comment l'idée vous est venue de créer cette application? Vous avez fait ça tout seul?
Je me suis fait aider parce que, comme je vous l'ai expliqué, moi j'étais chauffeur poids lourd, donc j'étais pas du tout dans le domaine informatique. Mon parcours scolaire est très atypique, donc j'ai fait comptabilité, commerce, une formation de manager, et pour ensuite partir en transport et logistique. Et c'est vraiment à partir de mon parcours professionnel que j'ai eu l'idée donc de la FIA. Et après, donc, je me suis fait aider par une association qui s'appelle Les Déterminés, qui m'a permis de mettre en place les bases pour la création de la société. Donc, c'est une formation gratuite sur 6 mois, et ça nous permet de sortir de cette formation avec les idées claires et de savoir si son projet est viable ou pas.
Et pour créer l'application elle-même, vous avez eu besoin d'informaticiens ou...
D'informaticiens, oui, bien sûr.
Comment ça a été financé?
Alors, une partie sur fonds propres et une partie de subvention. Avec la FIA, on a gagné la subvention French Tech Tremplin. Donc, c'est un organisme d'État qui nous donne accès à une partie finance. Et pendant 1 an, on est accompagné par une structure sur le développement de notre société.
Vous avez créé des emplois ou vous êtes tout seul?
Pour le moment, on est 5.
La FIA, qu'est-ce que ça signifie?
Alors, la FIA, c'est un nom qui m'est venu de ma mère. J'ai vraiment voulu un nom, on va pas dire atypique, mais qui sort de l'ordinaire. Donc, la FIA, ça signifie la sérénité dans ma langue maternelle, le bambara. Avec l'application, on a vraiment voulu avoir cet esprit de sérénité, de gestion simplifiée. C'est le mot qui était vraiment en adéquation avec l'entreprise.
Et en termes de clients, est-ce que la FIA a du succès?
On arrive aux milliers d'utilisateurs particuliers dans plus de 450 villes en France.
Donc 1000 usagers au total?
Au total, oui. En majorité, des personnes qui ont des citadines et en deuxième place, des personnes qui ont des berlines.
La chronique « Vivre ailleurs » de Corinne Manjou, tous les samedis et dimanches sur RFI. Vous retrouvez toutes nos chroniques sur notre site rfi.fr. Il est 5h23 à Paris. Dans quelques minutes, ce sera le retour de l'actualité africaine. Une demi-heure d'infos avec Sébastien Duhamel. D'abord, notre chronique « C'est dans ta nature ». On parle de la pêche aux moules à Paris entre les bateaux-mouches et les quais de Seine. C'est presque possible aujourd'hui puisque 3 espèces de moules ont été découvertes récemment au fond du fleuve. Des espèces qui avaient pourtant disparu. C'est donc un signe que la Seine est en meilleure santé et on en parle avec Florent Guignard.
Le clapotis des vagues, sur un quai de Seine à Paris, un bateau-mouche vient de passer entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. C'est ici, à quelques mètres, quelque part au fond de l'eau boueuse, qu'on a détecté des moules. 3 espèces de moules d'eau douce qui avaient disparu et qui sont menacées en France.
Évidemment, on ne s'attendait pas du tout à les retrouver dans un endroit aussi anthropisé que le centre de Paris.
C'est lui, Vincent Prier, spécialiste des mollusques aquatiques, qui a identifié ces moules grâce à une technique révolutionnaire, l'ADN environnemental. Il est chargé de projets au laboratoire Spigen.
Chaque organisme perd des centaines de millions de cellules, essentiellement de peau, par jour. Et chacune contient notre ADN. Avec des techniques qui sont proches de celles de la police criminelle, on arrive aujourd'hui à l'extraire de l'environnement et à le séquencer.
Depuis que les poissons se rebaignent dans la Seine, trois espèces il y a 50 ans, 12 fois plus aujourd'hui, les moules aussi font leur retour.
Ces bêtes-là sont tributaires de poissons hôtes, justement. C'est-à-dire qu'elles émettent une larve qui va être parasite des branchies de poissons pendant quelques semaines. Et puis après, la petite moule tombe. Donc ce qu'elle nous raconte quand même, c'est que les efforts qui ont été faits pour améliorer la qualité de l'eau portent leurs fruits.
Les moules d'ailleurs participent un peu à la qualité de la Seine puisqu'elles filtrent chaque jour 40 litres d'eau. La pollution lumineuse favorise le phytoplancton dont les moules se nourrissent. Mais combien sont-elles au juste, Vincent Prier ?
On n'est probablement pas sur des tapis de moules d'eau douce comme il y avait il y a quelques siècles. Hein. L'ADN environnemental, c'est un peu comme une odeur, c'est un peu comme si on les flairait. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est les voir. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé de favorable dans la Seine, sachant qu'on les connaît plutôt dans des rivières un peu sauvages, quoi. Et on aimerait beaucoup avoir l'occasion de plonger dans la Seine pour vérifier tout ça.
Allez, on passe à la question.
Ok, la Saint-Valentin, c'est vendredi, mais c'est quoi le rapport avec la nature ?
Eh bien, la fête des amoureux, tous les 14 février, remonterait au Moyen-Âge, en Angleterre, où on a longtemps cru que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. Bon, les pigeons à Paris, on a l'impression qu'ils n'arrêtent jamais, mais la mi-février marque que c'est vrai le début de la saison des amours pour certaines espèces, comme le merle, et c'est donc le début du printemps pour les naturalistes. Officiellement, le printemps, c'est le 20 mars, le printemps astronomique, alors que le printemps météorologique, lui, démarre le 1er mars. Vous me direz, il n'y a plus de saison. Oui, peut-être, mais il y a toujours plein d'amour.
Titre Saint-Valentin, Dole de Laf, la Saint-Valentin, c'est, on a encore un peu le temps, ce sera vendredi prochain. Et c'est avec cette chronique C'est dans ta nature de Florent Guignard que se referme cette édition. Merci à Michael Verne qui l'a réalisé avec beaucoup d'amour. Dans une demi-heure, Julien Coquel-Rohem arrive pour RFI Matin, 3 heures d'infos avant. Et bien ce sera le retour, c'est le retour dans un peu plus d'une minute de l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. À la une, ce matin, la situation dans l'est de la RDC, elle était au cœur du sommet conjoint de l'EAC et de la SADC hier en Tanzanie. Les deux organisations demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent. La situation dans l'est de la RDC, ce sommet conjoint, c'est aussi à la une de notre site internet RFI.fr. RFI, 4h29 en temps universel.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Une balle dans la tête et le corps offert à l'écrasement des chars allemands. C'est ainsi qu'est mort Charles Tchorere à RN en juin 1940. Abattu par les nazis, le capitaine est le symbole de la dévotion des tirailleurs sénégalais. Je vous raconte son histoire du Gabon au front de la Deuxième Guerre mondiale.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet Actu de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.